Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est une histoire qui a fait la une de la presse People et qui raconte la mort de Debbie Reynolds, une actrice et chanteuse américaine, le lendemain même de celle de sa fille, Carrie Fisher, la fameuse princesse Leia Organa de Star Wars. Comme si la mère avait eu au sens propre le cœur brisé, qu'elle était morte de chagrin. Ce qu'on appelait jadis somatisé, là dans une version hardcore, fut décrit dans le cas de Debbie Reynolds comme un Takotsubo, en français un syndrome du cœur brisé. Il se caractérise cliniquement par une réduction de l'afflux sanguin vers le cœur qui affaiblit le muscle cardiaque. Le cœur peine à pomper comme il faut. Il est comme sidéré et prend la forme d'une petite amphore, un piège à pieuvre japonais plus exactement. Dans son pays d'origine, le Takotsubo a été identifié dans les années 90. La partie gauche du cœur se déforme, puis revient progressivement à la normale au bout de quelques semaines, comme un infarctus, sans en être un. Ce qui est curieux, d'après la Fédération française de cardiologie, c'est que ce syndrome, provoqué par un déferlement d'hormones du stress, peut être causé par une circonstance exceptionnelle, un accident, un attentat ou même une catastrophe naturelle. En fait, n'importe quel événement, même banal, mais vécu de manière très intense, peut provoquer un Takotsubo. On est à la croisée du corps et de l'esprit, du malheur et de la maladie, sans qu'il faille nécessairement convoquer la psychanalyse et la notion d'inconscient. Pour Romain Cador, enfin, cardiologue, on peut parler d'un burn-out cardiaque dans lequel le cœur veut tellement résister au choc psychologique qu'il craque et qu'il devient lui-même malade. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, entre le Takotsubo, le burn-out, la souffrance au travail, le stress, le harcèlement moral, des raisons objectives de tomber malade, de voir son cœur lâcher et tout de suite en écoutant ces histoires, de se sentir moins seul si ça vous est arrivé. De récits par Leila Gitli et Stéphanie Thomas.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Alors je rentrais d'une conférence que j'avais faite à Albi, c'était la veille de la Saint-Valentin. Je me suis couchée, j'ai pris un journal et j'ai commencé à lire. Et tout d'un coup, je me suis aperçue qu'il y avait des trous noirs sur les lignes. C'est-à-dire que je lisais le début de la ligne, pof, trou noir. Je continuais, trou noir, des taches. Donc je me suis demandé ce qui se passait, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai essuyé mes lunettes... Ça recommençait, j'ai bougé la lampe, c'était extrêmement curieux. Je comprenais rien de ce que je lisais, en fait. Donc je voyais les mots, j'arrivais à les lire, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai paniqué complètement et je me suis dit, je suis en train de faire un AVC. J'ai essayé d'appeler mon mari qui était dans la pièce à côté en train de travailler et je me suis rendu compte que les mots ne sortaient pas. Et je me suis entendue bredouiller vite, médicaments, je sais pas quoi. Enfin, je me souviens même plus ce que j'ai dit. Je me suis levée à un moment donné. On a appelé les urgences. Moi, j'étais glacée, terrorisée. J'ai vu débouler chez moi une escouade de jeunes gens de la protection civile qui m'ont dit de me lever, de tendre les bras, de toucher le bout de mon nez. Enfin, on m'a fait faire plein de trucs et qui ont fini par me dire « Mais madame, il faudrait quand même que vous alliez aux urgences. » Quand je suis arrivée aux urgences, on m'a mis sur une sorte de fauteuil roulant. J'ai dit « Je peux marcher ?» On m'a dit « Non, bon. » On m'a fait un électrocardiogramme, j'ai demandé ce qui se passait, la fille qui m'a fait l'électrocardiogramme m'a dit « j'ai pas le droit de vous le dire ». J'étais vraiment au-delà de l'angoisse. Mm-hmm. J'ai grelotté sous ma doudoune, j'entendais les gens geindre autour de moi. Mm-hmm. Il y a des tas de gens qui sont rentrés, sortis, on m'a fait répéter mon histoire un nombre incalculable de fois. J'avais envie de rentrer chez moi, j'en pouvais plus. Jusqu'au moment où une jeune cardiologue en blouse verte est arrivée et me dit « madame, vous faites un infarctus ». Et là, je me dis, je vais mourir. Je vois cette espèce de plafond floqué là avec ces vieux carreaux et je me dis, ok, je vais quand même pas mourir là. Et je lui dis, vous êtes en train de me dire que je vais mourir? Elle me dit, ah non, madame, vous êtes au bon endroit. Et bon, ce qui... bon, ok. Et puis, Elle me refait un examen, donc elle me fait une échographie du cœur. Et là, elle me dit « Ah, non, j'ai une autre idée. C'est pas un infarctus, c'est un Takotsubo. » Bon, moi, je savais pas ce que c'était un Takotsubo. Donc, voilà. Donc, j'ai passé 48 heures en soins intensifs. C'est une drôle de sensation. J'avais l'impression d'être à moitié morte, à moitié vivante, en fait. Takotsubo, ça veut dire piège à poulpe en japonais. Et la différence entre l'infarctus et le Takotsubo, les symptômes sont les mêmes, c'est que dans un cas, il y a un caillot, et dans l'autre, il n'y en a pas. Et puis, le Takotsubo, c'est le ventricule gauche du cœur qui se dilate, qui se gonfle et qui prend la forme d'un piège à poulpe. Et voilà comment je me suis retrouvée pendant 48 heures en soins intensifs cardio avec des infirmières absolument adorables mais fabuleuses qui sont occupées de moi comme si j'étais la personne la plus précieuse du monde. Et j'ai immédiatement fait deux choses, regarder sur internet ce que c'était qu'un Takotsubo et annuler les 5 interviews que j'avais le lendemain, parce que j'avais 5 interviews à faire le lendemain pour un article. Et puis, c'est quand je suis rentrée chez moi, parce qu'au bout de 48 heures, on m'a virée de l'hôpital, on m'a dit, voilà, vous pouvez rentrer chez vous, pas de traitement, rien, enfin, si, un petit traitement très léger. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit, bah maintenant, faites-vous plaisir. Rétrospectivement, j'ai eu vraiment très très peur. J'ai eu l'impression d'être passée de l'autre côté du miroir, d'être revenue, d'avoir frôlé quelque chose de gravissime que je n'arrivais pas à comprendre. Je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé en fait. Ce qui est amusant, c'est qu'après, je me souviens quand je suis allée voir mon généraliste, il m'a dit « Alors, ton osso bucco, ça a fait rire beaucoup les gens », ce qui était à la fois sympathique et en même temps angoissant. Parce que moi, j'ai compris que j'avais un truc rarissime, non identifié. Et puis le cœur, enfin bon, quand même, c'est... Parce qu'on m'a expliqué assez rapidement quand même que c'était provoqué par le stress. Et ça, c'est incontestable, c'est le stress. Mais ce qu'on ignore, c'est combien de gens ont été victimes d'un Takotsubo. Comme c'est une pathologie où tout rentre dans l'ordre après, où le pronostic vital est visiblement pas engagé, ou en tout cas, quand ça rentre dans l'ordre, bah après les gens vont bien, on ne sait pas grand-chose. Mais là, on vient de découvrir au mois de juin là que le cœur gardait des cicatrices, ce qui est pas étonnant quand même quand on pense la moitié du cœur qui se gonfle, qui se dilate, qui se déforme, il reprend sa forme après et il y aurait pas de traces et de cicatrices, c'est invraisemblable. Donc, comme je pensais que le stress que j'avais vécu venait du travail, évidemment. J'ai fait une enquête, je suis allée voir des cardiologues d'un côté, et puis j'ai cherché ce qui se passait dans le monde du travail de l'autre. Et du coup, je ne savais pas très bien comment appeler ça, parce que Takotsubo, effectivement, ça fait plat japonais, hein, resto japonais. Et puis ça m'est venu parce que j'ai découvert que... Autrefois, on disait « aller au chagrin » pour aller au travail. Et là, j'ai trouvé que chagrin de travail, ça me correspondait. Et il y a un moment où le corps hurle. Et pour moi, chagrin de travail, c'est comme un chagrin d'amour. Il y a une chose dont je me souviens, c'est que le cardiologue qui m'a fait ma coronarographie m'avait demandé « Est-ce que vous faites un métier stressant ?» Et je lui ai dit « Je suis journaliste ». Et il a dit « Ah ben, ça m'étonne pas ». À ce moment-là, j'ai raconté quelque chose qui m'était arrivé la veille au soir à Albi dans ma chambre d'hôtel, où j'ai eu l'impression que j'étais en train de faire un infarctus, une crise cardiaque. Il y avait eu un événement qui s'était produit au journal où je travaillais l'après-midi précédente, où une fille m'avait hurlé dessus sans que je comprenne pourquoi. Mais vraiment, j'ai rien compris. Je lui avais demandé mais pourquoi elle me hurlait dessus. Elle m'avait hurlé « Laisse-moi tranquille, je veux pas te parler, j'ai du travail. » Et bon, qui m'avait sidérée, pétrifiée. Et donc, cet après-midi-là, l'après-midi qui a suivi ce hurlement, j'ai travaillé en grelottant de fièvre. Et le soir à Albi, dans mon lit d'hôtel, j'ai eu une douleur dans le cœur, dans le bras. Je me suis dit, t'es en train de faire un infarctus. Puis je me suis dit, arrête de flipper, tout va aller bien. Ça m'a ramené des mois en arrière, à une époque où j'étais en insécurité totale parce que je suis arrivée dans une rédaction où les gens n'avaient pas très envie de me voir arriver. J'ai bénéficié de ce qu'on appelle un reclassement. C'est-à-dire qu'on vous retrouve un poste dans une grosse entreprise. Donc je suis arrivée dans un endroit où on ne m'attendait pas. Et je l'ai senti et j'ai été en porte-à-faux pendant très très longtemps. Je suis arrivée, c'est comme quand on débarque dans une famille, qu'on est un étranger, que les gens ne veulent pas de vous. On m'a dit que je ne m'intégrais pas. Moi, je pense plutôt qu'on ne m'a pas intégrée. Les gens étaient très très soudés, s'entendaient très bien et ils m'ont pas fait de place. C'était des gens qui se connaissaient depuis longtemps, qui travaillaient ensemble depuis longtemps, qui allaient manger ensemble tous les jours à midi, sans jamais me proposer de venir. Donc j'aurais peut-être dû dire « est-ce que je peux venir avec vous ?» Mais moi, j'ai compris, j'ai senti assez rapidement qu'ils n'y tenaient pas. Les gens qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre ce qu'on peut éprouver quand on a l'impression d'être tenu à l'écart de tout. Je me suis jamais sentie acceptée. Je me suis jamais sentie en sécurité. À la fin de mes 9 ans dans cette entreprise, j'avais l'impression que j'existais pas, que j'étais invisible, que je sois là ou pas là, tout le monde s'en fichait éperdument. Ce que je faisais, personne me disait que c'était bien. Alors les gens me disaient « mais si, t'exagères, on t'a dit que c'était bien ». Bon, d'accord, ok, on m'a dit que c'était bien. Je pense que mon travail était apprécié, que tout le monde se rendait compte que je me défonçais pour que ça soit bien fait. Mais c'est ma personne qui passait pas. J'avais l'impression qu'on n'aimait pas ce que j'étais, que la personne que j'étais déplaisait. Ça, c'est très violent. Et alors, en plus, on me disait que j'étais parano. Je suis parano, donc ça veut dire « si, si, on t'aime bien, mais c'est toi qui crois qu'on t'aime pas ». Sauf qu'ils allaient quand même déjeuner tous ensemble, sans jamais me proposer de venir avec eux. Bah, j'étais peut-être parano, mais j'avais des bonnes raisons de l'être, quoi. Enfin, je sais pas. C'était terrible, tout ça. C'était terrible. Un jour, j'ai expliqué à un collègue dont je partageais le bureau, qui était quelqu'un qui ne m'aimait pas, qui me le faisait sentir. Je lui ai dit « mais tu sais... il faut quand même que tu comprennes que si je suis là, c'est parce que j'ai besoin de gagner ma vie comme toi. C'est pas pour t'emmerder. » Il n'a pas répondu. J'ai envisagé de partir souvent. J'ai beaucoup pleuré, j'avoue. Beaucoup, beaucoup. Je me suis souvent enfermée dans les toilettes pour pleurer. J'ai un peu honte de le dire parce que je trouve pas ça très glorieux, en fait. Mais ouais, bien sûr, ouais, j'ai pleuré beaucoup, ouais. Un jour, au cours d'un entretien d'évaluation annuel, je demande à la charmante personne qui est en face de moi, ma supérieure hiérarchique, je lui dis « écoute, l'année dernière, j'ai dépassé mes objectifs. Je n'ai eu aucune ni prime, ni augmentation, ni promotion. Tous les ans, je demande une augmentation, une promotion avec un sentiment d'humiliation profond, mais voilà, il faut le faire. » Et ce jour-là, je lui dis « écoute, je vais juste te demander quelque chose. » Cette demande de promotion et d'augmentation que je fais tous les ans, est-ce que tu te contentes de la transmettre ou est-ce que tu la soutiens ? Elle m'a dit, tu veux que je te dise la vérité ? Franchement, ben jusque-là, je ne t'ai pas soutenue. Et puis dans la foulée, j'ai dit, bon, alors maintenant, donne-moi une bonne raison d'atteindre les objectifs que tu me fixes. Il y a eu un silence, et puis elle m'a dit, eh ben, t'adores ton boulot. Mais... comment dire ? C'est évident qu'on n'investit pas sur des gens qui sont en fin de carrière. C'est évident qu'on ne veut pas leur confier des responsabilités. C'est évident qu'on est content d'avoir des gens très compétents, mais qu'en même temps, il n'y a aucune raison de leur donner une augmentation, il n'y a aucune raison de leur donner une promotion, puisque de toute façon, ils vont partir. Et c'est hard, ça, quand même. C'est violent, quoi. Et puis après, effectivement, alors, il y a les réflexions un peu désagréables par moment. Ah ouais, mais tu ne peux pas comprendre, c'est des trucs de trentenaire. Ça, c'est ce que j'appelle les petites violences ordinaires de l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis très contente de pu y être. Je ne sais pas si je peux parler de soulagement, parce que il y a quand même eu quelque chose que je n'ai pas eu, que j'attendais, que je n'ai pas eu. Je pense que bêtement, j'ai pensé que les choses allaient changer. Et je pense aussi quand même que j'ai eu peur. Que je mesurais la chance que j'avais d'avoir un CDI, le Graal aujourd'hui, et que je pensais qu'il fallait passer au-dessus de tout ça, que j'étais peut-être trop sensible, que... En fait, je me suis un peu sentie coupable de ne pas réussir à me faire accepter. J'ai pensé que c'était sans doute peut-être de ma faute, et c'est ça aussi qui me fout en rogne aujourd'hui. Ça m'a broyé le cœur d'être anonyme, d'être un numéro dans une espèce d'énorme entreprise dans laquelle il y a émergé les gens qui étaient en position de pouvoir, et que j'étais un bon petit soldat qui avait très très envie de bien faire son boulot, mais qui avait aussi besoin, comme tout le monde, de reconnaissance. Et j'étais un pion, j'étais invisible. Alors, c'est terrible de dire ça, parce que j'y suis quand même restée 9 ans. Et donc, je ne sais pas où je serais aujourd'hui si je n'avais pas fait ce Takotsubo, dans le fond. J'y serais peut-être toujours, hein, en train de prendre ma ligne 13 tous les matins, de manger à la cantine tous les jours à midi, de... parce qu'ils ne m'auraient pas virée. Parce que dans l'entreprise dans laquelle j'étais, on ne vire pas les gens, on attend qu'ils s'en aillent. Et là, le simple fait de reparler de tout ça fait que là, j'ai le cœur qui cogne. J'ai le cœur qui bat la chamade.
Va votre cœur ?
Alors, mon cœur va bien, je pense. Je vais faire un petit électrocardiogramme tous les ans. Je veux surtout pas ne plus éprouver d'émotion. Donc, il y a des moments où il bat très fort. Dans ces cas-là, je m'inquiète un peu, j'avoue. Je me dis, voilà. J'évite le stress.
Au fond, le Takotsubo, c'est une allergie au stress.
Ouais, le cœur refuse le stress. Le cœur se cabre contre le stress. Il se déforme, il veut pas entendre parler du stress, le cœur. De toute façon, maintenant, la première cause de mortalité chez les femmes, c'est les maladies cardiovasculaires, faut bien le savoir, hein. On paye cher notre sensibilité, notre dévouement, notre engagement, notre implication, notre... Il faut penser à protéger le cœur des femmes, le cœur des hommes, le cœur des enfants. Il faut penser... Moi, j'ai une fille, j'ai pas envie que ma fille vive dans ce monde-là. Le jour où j'ai quitté l'entreprise, où je suis allée chercher mes affaires après quelques mois d'arrêt maladie, c'était terrible pour moi. J'ai fait un petit pot, j'ai invité très peu de gens. Je suis rentrée chez moi et le lendemain, j'ai passé la journée allongée sur mon canapé, sous ma couverture en fausse fourrure, complètement déprimée. En fait, je pense que je ne pourrais plus jamais y retourner. C'est absolument un vrai chagrin de travail et c'est un peu comme un chagrin d'amour quand même.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis chef des ventes véhicules neufs dans une concession Renault, une concession de taille assez importante. Ça fait 22 ans, 23 ans que je suis dans l'automobile. C'est avant tout une passion. J'ai un ancien patron qui avait l'habitude de dire « Rentrer dans l'automobile, c'est comme rentrer dans les ordres. » Donc il y a 3 ans, l'automobile était très tendue. Nous vendions nettement moins de véhicules, contre-coup de la crise, mais les objectifs étaient toujours aussi forts. Il fallait absolument trouver des méthodes pour faire vendre plus. On me demandait, alors je vais mettre entre guillemets, de rentrer dans la gueule tous les matins aux vendeurs, de leur mettre une pression permanente, de les serrer très fort. Ça, c'est des termes que j'ai pu entendre. Les méthodes qu'on nous demandait d'appliquer n'était pas en convergence avec mes idées propres du management commercial. Plusieurs fois, je suis monté au créneau pour dénoncer ces pratiques auprès de ma hiérarchie. Réponse était, tu es trop gentil, c'est une qualité, mais nous, dans notre métier, faut être dur, très dur avec eux. De toute façon, il y a suffisamment de chômeurs en France. S'ils ne sont pas contents, ils démissionnent et ils s'en vont. Ces méthodes, je ne les appliquais pas. Moi, j'ai une ligne de conduite, j'ai toujours cru en mes méthodes, basées sur l'individu, basées sur la personne, le travail d'équipe, le travail de coopération et l'encouragement. Plutôt que la répression, la schlag, c'est aussi un terme que j'ai entendu. Un commercial ne peut pas avoir de bons résultats si on lui met une pression en permanence sur la tête. C'est techniquement pas possible. Donc on m'a reproché justement de ne pas vouloir appliquer ces méthodes, méthodes qui au passage étaient prônées par les constructeurs automobiles, aussi bien chez PSA que chez Renault. Donc j'ai joué le tampon entre la direction et mes équipes, ce qui progressivement m'a amené dans une situation psychologique où j'ai commencé à douter de mes propres méthodes. Lorsque ça allait trop loin, on avait tendance à relâcher la pression envers moi. Et dès que je reprenais un petit peu de confiance, c'était reparti de plus belle. On me repressionnait, et même des fois de façon plus importante que ce qui était pratiqué avant. Tous les entretiens sont des entretiens dits bilatéraux, c'est-à-dire que ça se passe tout seul dans le bureau du supérieur hiérarchique. Et là, vous pouvez vous en prenez plein la tête. Ce sont les reproches, reproches incessants. T'es trop gentil, t'aurais dû faire ça à tel moment. Il faut absolument faire ça. Telle personne qui fait pas ses résultats, va falloir trouver une solution. Sous-entendu, il va falloir que tu lui mettes fort la pression pour que la personne s'en aille ou la personne démissionne. J'ai protégé de nombreux vendeurs. On ne nous menace pas directement de licenciement. Par contre, on nous le fait comprendre. C'est beaucoup plus vicieux et c'est induit. J'en veux aussi énormément aux constructeurs automobiles. Donc, dans ce cas de figure précis, Renault. Renault qui a tendance à s'immiscer au niveau des distributeurs privés pour petit à petit essayer de dicter sa loi et se permettre de donner des jugements sur des personnes de l'entreprise, voire même jusqu'à exiger auprès des directions de groupe et des directions d'affaires la tête de telle ou telle personne. Force de subir des pressions d'emmagasiner, on finit par se renfermer, et on se renferme de plus en plus. Les proches ne sont pas au courant. Je n'avais pas vraiment d'interlocuteur dans l'entreprise, je ne pouvais pas en parler. Donc j'ai accumulé, jusqu'à arriver à ce point de non-retour où j'étais à deux doigts de basculer et que ma vie s'arrête. À un moment, on se dit, en mettant fin à ses jours, on va épargner aussi sa famille, ce qui est un raisonnement complètement stupide. Mais à partir du moment où on commence à tenir ce raisonnement, le non-retour est vraiment atteint et le geste après arrive très rapidement. Tout a basculé et là, bon, j'ai voulu, bon, allez, on va utiliser le bon terme, j'ai voulu me suicider et mon épouse a décelé que ça allait pas et c'est elle qui a stoppé la manœuvre et qui a fait que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais le geste était prêt et la nuit où je partais pour rejoindre ma concession où il était prévu que je mette fin à mes jours, mon épouse avait senti que quelque chose n'allait pas et que c'était pire que d'habitude. En pleine nuit, elle a vu que j'étais levé et que je m'apprêtais à partir sur la concession et où on m'aurait retrouvé le lendemain matin mort. Certains diront ils ne supportaient plus la pression commerciale, les objectifs étaient trop élevés. C'est une hérésie de parler ainsi. Ça donne bonne conscience par rapport aux personnes. J'ai essayé de, tout au long de ma carrière, de toujours m'appliquer le plus possible dans mon métier. Et je mets surtout en avant le respect de l'individu. Mais je pense que les personnes n'agissent pas de leur propre chef. Et qu'il y a tout un circuit, il y a un circuit décisionnel. On peut remonter jusqu'aux directions de groupe qui incitent et qui prônent ce type de management. Et aujourd'hui, mon combat est de dénoncer ce management et d'essayer de faire changer et revenir sur quelque chose de beaucoup plus humain.
C'était le Takotsubo, syndrome du cœur brisé, un reportage de Leila Jitli avec une archive de Stéphanie Thomas, une émission réalisée par l'ISCOM avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy depuis la première diffusion de cette histoire il y a 2 ans. Sachez que Daniel Lofer, qui a publié son livre Takotsubo, un chagrin de travail, a reçu beaucoup de soutien, qu'elle va mieux et qu'elle a bien sûr complètement changé d'orientation professionnelle. Merci également à José d'Oliget et à Aurélie Marseille qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre.